Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.
Bonjour à tous et bienvenue dans le bénéfice du doute. Nous parlons aujourd'hui d'accompagnement spirituel avec Michel Lévy-Soussan et Marc Cohen. Le soin, il y a deux mots pour dire cela en anglais, cure et care. Cure, ça veut dire soigner, tenter de guérir au sens médical du terme. Care, ça veut dire prendre soin, s'occuper de, se soucier de, avoir de la sollicitude pour l'autre. Est-ce que le travail du médecin, c'est l'un et l'autre? Est-ce que le cure a besoin du care? Est-ce que les deux sont complémentaires? Est-ce que le rôle de guérisseur et le rôle d'accompagnant spirituel vont ensemble? C'est pour discuter toutes ces questions que j'ai avec moi aujourd'hui Marc Cohen, qui est gériatre. Bonjour Marc.
Bonjour.
Vous avez dirigé pendant des années le pôle santé de Lozé. Vous dirigez aujourd'hui un accueil de jour à Sarcelles pour les malades en perte d'autonomie. Et Michel Lévy-Soussan. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous êtes médecin à la Pitié-Salpêtrière, vous dirigez le service des soins palliatifs et on a le plaisir de vous retrouver à nouveau dans cette émission. Vous êtes déjà intervenu il y a peu de temps pour discuter de dilemmes d'éthique médicale avec nous. Vous pilotez tous les deux un projet qui m'a semblé très intéressant et qui pose beaucoup de questions, un projet de formation de professionnels et de bénévoles sur l'accompagnement spirituel. C'est un projet qui aura lieu au mois de juin, qui est porté par Adat Shalom et ouvert à tout public. Un projet qui se tiendra au centre Rachi de Troyes et qui porte donc sur cette notion qui au départ est anglo-saxonne d'accompagnement spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord l'accompagnement spirituel? Michel Lévy-Soussan, peut-être?
Oui, l'accompagnement spirituel, c'est tout d'abord une disponibilité de l'être face à la personne confrontée à une épreuve de la vie, à la maladie, au handicap, à toute épreuve qui... engage l'autre dans un soin, une présence, et j'ai envie de dire l'accompagnement spirituel auquel la France, dans sa formation, y compris même le mouvement des soins palliatifs, laisse peu de place par rapport aux pays anglo-saxons, est déjà une question, une place, une disponibilité de l'être dans l'accompagnement.
Est-ce que ça veut dire que dans la pratique du médecin, dans votre pratique à tous deux, hein, de médecin depuis des années, à un moment ou à un autre, vous rencontrez, vous butez sur l'obstacle du questionnement spirituel, du désarroi moral, Marc Cohen?
Je ne pourrais pas dire que nous butons sur un obstacle, mais je crois que pour Michel comme pour moi, nous sommes dans un champ où on est obligé de reconnaître nos limites qui sont immédiates, puisque nous nous occupons de personnes pour lesquelles on n'est absolument pas zéro, alors que nous sommes formés pour être zéro, et là, on est sûr qu'on ne fera rien. Hein. Donc, les ambitions... Alors, soit on est hyper masochiste et on s'occupe de gens pour lesquels on est incapable de faire quelque chose, soit, par contre, on a une autre vision du soin, et c'est là où le care prend pour moi son importance, c'est que... ça fait partie pour moi du soin et médical, mais aussi général de l'être dont on s'occupe, que de l'accompagner, même si je n'ai pas la possibilité de lui apporter du cure, c'est-à-dire de la guérison de quelque chose. Et le fait de le savoir, théoriquement, nous protège de certaines exagérations, puisque nous allons surtout être à l'écoute de cette personne, et essayer de limiter les conséquences qu'elle va pouvoir elle-même produire et qui risquent d'aggraver son propre état, qui déjà est un état difficile. Et la connaissance que nous avons de la maladie peut en tout cas nous aider à lui donner de l'espoir. Parce que paradoxalement, et c'est en tout cas ce que j'ai vécu à chaque fois que j'ai eu ce type d'expérience, et d'aller accompagner une personne en fin de vie, je rentre. Et plus je vieillis, plus ma frousse grandit, ce qui est bizarre, parce que quand j'étais jeune, j'avais aucune frousse d'aller voir quelqu'un en fin de vie, j'étais là plein d'énergie. Mais aujourd'hui, je suis de plus en plus proche de mes propres patients. Je rentre vraiment mal, et je me dis, je dois faire mon travail, je suis là pour aider la personne, et c'est souvent elle qui me donne en fait une force incroyable, et cette force elle m'est donnée parce que justement elle me laisse apercevoir le fait qu'elle est seule devant sa souffrance, et que moi je vois qu'il y a quand même pas mal de portes qui sont ouvertes, et qui vont pouvoir lui, parce que finalement ce qui l'angoisse, c'est pas ce que moi en tant que médecin j'avais imaginé ou qui l'angoisserait, c'est comment elle a construit un avenir qui est impensable, et là par contre nous avons un rôle, et le fait d'être médecin, c'est simplement qu'on a une expérience, mais ce qui est très intéressant, que ce soit en soins palliatifs ou en gériatrie, c'est que du fait de notre impuissance justement en tant que cure, c'est-à-dire en tant que guérisseur, eh bien, on a très vite appris à travailler avec beaucoup de personnes. D'abord avec tout le monde paramédical qui était quand même pas très bien vu par le monde médical qui était dans sa toute puissance.
Ça, c'est pour soulager, je dirais, les souffrances du quotidien.
Pas seulement les souffrances du quotidien. C'est aujourd'hui, c'est de laisser. C'est presque le rôle de citoyen que nous agissons, c'est de laisser et les médecins, et les patients, et les associations, et les aidants aussi participer à la réflexion de ce qu'on est en train de construire, parce que finalement on est en train de s'autoriser à entrer dans un champ dans lequel on meurt depuis la nuit des temps, mais ce champ dans lequel nous sommes en train de rentrer, on a besoin d'être fort et on a besoin en même temps de ne pas faire n'importe quoi. Or, on a des expériences différentes. La science n'est pas supérieure. Je trouve que de travailler avec des philosophes, de travailler avec des penseurs, de travailler avec des gens qui connaissent ce concept, c'est quelque chose qui peut apprendre à tous ceux qui travaillent auprès d'une personne, surtout en situation de perte de force, puisque c'est pas simplement la maladie, on a l'habitude de traiter un patient. Mais dans un monde qui est autant angoissant pour la personne qui va vivre une situation de crise où la mort est présente et la personne qui le soigne, il y a quand même la même, il y a une partie qui est commune, sauf qu'il y a une qui va se la poser parce qu'elle a vie et que l'autre elle ne se l'imagine pas dans l'immédiateté, et qu'à partir du moment où elle va être en lien, elle va se l'imaginer dans l'immédiateté. Et moi, ce qui me passionne, c'est de donner autant des armes à l'aider qu'à l'aidant, à la personne en souffrance, qu'à la personne qui va l'écouter, qui va l'accompagner, parce que c'est quelque chose qui transforme, et je l'ai dit parce que je l'ai vécu souvent dans mon expérience personnelle. C'est vrai que les personnes me donnaient de la force, mais ils ont changé ma vie. C'est pas quelque chose qui est... c'est pas comme quand je fais une ordonnance pour une angine, ça n'a strictement rien.
Mais alors justement, Marc Cohen, ce qu'on entend dans votre manière de parler de tout ça, c'est beaucoup d'affect. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette relation au patient, à son environnement, à ses proches, à tous ceux qui l'aident déjà autour de lui, concrètement, sa famille. Il y a, dans le rapport du médecin à tout cela, beaucoup d'affect, de l'affectif, du désarroi peut-être, des questions, des doutes partagés. Comment est-ce que cette dimension-là, affective, émotionnelle, d'abord est compatible avec le rôle qu'on attend généralement du médecin, hein, Michel Lévy-Soussan, le médecin est dans une position de tiers qui ne doit pas se laisser affecter par les souffrances du patient. Donc comment est-ce que, d'abord, on gère cette dimension affective, et puis surtout, est-ce qu'on peut professionnaliser ce rôle ?
C'est des questions tout à fait essentielles. D'une part, je pense qu'avec le développement d'une médecine très technique à tous les âges de la vie, la gageure pour le médecin, c'est d'arriver en permanence de faire ce va-et-vient entre une objectivation nécessaire de la maladie, une compréhension et un retour au sujet porteur d'histoire. Souvent, on parle par exemple dans la démarche médicale de l'interrogatoire médical. Je trouve ce terme assez terrible, alors qu'il s'agit quand même d'un entretien, mais aussi arriver à venir à l'écoute d'un récit, du récit du patient, la façon dont il va relater l'histoire de sa maladie. C'est pas seulement répondre à des éléments d'anamnèse qui vont nous permettre de construire un raisonnement médical, c'est être dans ce qu'on appelle, ce que Rita Sharon a nommé le courant de la médecine narrative, c'est être dans l'écoute de la construction d'un récit qui fait sens pour le malade. Puisque c'est ça l'accompagnement spirituel aussi, c'est cette forme de disponibilité qui va permettre d'être à l'écoute de ce qui fait sens pour le malade dans ce qui lui arrive, dans l'épreuve qu'il traverse. Et donc, c'est ça la gageure aussi pour le médecin qui doit faire en permanence le va-et-vient entre objectivation nécessaire et retour au sujet porteur d'un récit qui fait sens pour lui. La question de la formation est tout à fait importante, parce qu'on pourrait penser que entre le savoir-faire, où on peut bien sûr former à travers les repères de connaissances médicales, et le savoir-être où pendant longtemps on disait que ça faisait partie de l'art médical, que c'était un supplément d'âme, eh bien aujourd'hui on s'est battu, et même si c'est tout à fait difficile et passionnant d'un point de vue pédagogique, on s'est battu pour dire oui, on peut transmettre. Alors il faut penser à des outils pertinents de transmission, y compris dans le programme qu'on s'est donné pour but de construire. Cette question est à l'œuvre. Qu'est-ce que c'est que transmettre? C'est déjà s'entendre, faire entendre, entendre les expériences des uns et des autres, comme disait Marc Cohen, du côté soigné et du côté soignant. Et il y a toutes sortes d'outils de transmission. Je parlais de la médecine narrative, mais aussi dans les jeux de rôle. Je ne vais pas là faire des développements, mais cette question de la transmission, comme dans le judaïsme, d'une manière tout à fait essentielle, est à l'œuvre dans cette transmission du savoir-être face aux patients en situation de vulnérabilité.
Alors, ce que je voulais ajouter par rapport à cette question qu'on entend dans le soin, le côté affectif, pour moi, la connaissance et la science, mais alors vraiment la plus haute science, au plus haut point technologique, est indispensable. Je n'imagine pas et je ne me permettrai pas, si vous voulez, d'être dans une position de soignant s'il n'y avait pas dans mon équipe une garantie sur la connaissance scientifique de ce qu'on sait le jour où on intervient. Et donc, ce n'est pas une généralité, ce n'est pas qu'on est gentil, qu'on fait une mitzvah, qu'on est à côté de quelqu'un qui souffre, non. Et c'est ça aussi qui nous permet de nous en sortir. C'est-à-dire que c'est la connaissance, et la connaissance vraiment très très sérieuse d'un sujet. Lorsque je vais voir un malade qui a un cancer du pancréas, moi j'ai étudié le cancer du pancréas, ça fait 40 ans. Donc je vais le réétudier, mais avec tout ce qu'on sait, avec les dernières connaissances, les dernières imageries, c'est fondamental. Et non seulement pour moi, mais pour toute l'équipe des gens. C'est-à-dire que je suis le représentant en tant que médecin, c'est ça que j'apporte comme tranquillité, c'est-à-dire que je ne vais pas n'importe où, je ne vais pas dire je vais vous faire une bise et vous allez voir, on va faire, je ne sais pas, de la relaxation, ce n'est pas ça. C'est à la fois une garantie de la reconnaissance.
Et du non-renoncement à tenter de faire quelque chose d'efficace contre la maladie elle-même.
Et que je sais, par mon esprit scientifique, paradoxalement, que rien ne m'autorise à dire que la situation est complètement perdue sur tous les plans. C'est-à-dire que cette formation scientifique nous sert simplement, c'est le divorce, c'est la séparation, c'est l'idée que des soignants ne partagent pas les conséquences qui vont être bénéfiques et qui sont chacun dans son monde, chacun étant forcément obligé de défendre son église ou sa chapelle ou sa synagogue. C'est ça qu'on apprend justement en s'occupant ou des personnes âgées ou des personnes qui sont en situation difficile. On apprend qu'il y a les deux et c'est pas obligatoire du tout que ce soit la même personne. Mais pour moi, le travail d'équipe, justement, et que dans ce travail d'équipe qui avance, par exemple, moi, chaque semaine, je forme à la maladie d'Alzheimer depuis 25 ans la même équipe qui me connaît. Chaque semaine, j'estime que j'ai la responsabilité d'apporter la dernière information qu'on a eue et qui fait que la personne qui s'occupe du ménage dans notre institution, elle sait des tas de choses que beaucoup de médecins ne savent pas. Mais c'est mon job. Ça fait partie de mon travail qui va lui faire rendre possible, c'est-à-dire que même c'est du management, elle va sûrement rester plus longtemps dans l'institution, Parce qu'elle elle sait, et elle sait qu'elle sait. Hein, c'est-à-dire, c'est, elle, elle n'est pas là pour faire uniquement le ménage ou pour faire une tâche qui est moins noble ou dite moins noble. Elle participe. Parce que la façon dont elle va ouvrir la porte et qu'on sait qu'elle travaille dans un endroit où on est spécialisé dans la connaissance de cette maladie, ben, elle est pas, elle est quelqu'un qui accueille. Et pour moi, ça a commencé, alors que nous savons tous qui sommes là, que nous ne allons rien apporter sur un plan révolutionnaire, sur un plan thérapeutique à la personne dont on s'occupe. Mais on ne pourrait pas non plus le faire si on ne voyait pas tous les jours que ça fait sens et ça fait action et réaction. Ce fait de nous obliger, parce que c'est pas naturel, c'est pas du tout facile de travailler en groupe, c'est pas du tout naturel, hein. Il faut pas croire que c'est, comme tu le disais, c'est une aventure pédagogique, mais c'est une aventure qui se renouvelle tous les jours. Et dans cette aventure, je peux vous dire qu'il n'y a pas un sachant, et non, on reçoit tous, parce que chacun va réagir avec sa propre histoire, ses connaissances, les raisons qui font qu'il se trouve dans... à la place où il se trouve, et qui est une place difficile, et pourtant on y reste. Donc c'est bien parce qu'il y a un intérêt pour tout le monde qu'on peut revenir, sinon je pense qu'on ne revient pas, ce n'est pas possible.
Il y a dans ce que vous dites, Marc Cohen, comme une sorte d'élargissement ou d'élasticité de la notion d'espoir. Michel Lévy-Soussan disait tout à l'heure qu'on cherche à redonner de l'espoir, à ce soulagement-là qui est le rôle du médecin, redonner de l'espoir. Ce n'est pas forcément de l'espoir de revenir à ce qu'on était avant l'épreuve, mais un espoir qui prend toutes sortes de formes et qui s'intéresse aussi à l'acceptation ou au vécu de ce qui nous arrive. Alors, sur ce plan-là, en préparant cette émission et en réfléchissant à l'accompagnement spirituel, je repensais au livre de Job, hein, au livre biblique de Job, où il me semble qu'on a à la fois l'exemple du bon accompagnant et du mauvais accompagnant. Sauf que dans le livre de Job, c'est les mêmes personnes qui jouent ce rôle successivement. Hein, Job, c'est cet homme très riche et très heureux qui fait l'objet d'un pari entre Dieu et Satan et qui se trouve éprouvé de tous les malheurs du monde. Tout s'écroule, son monde s'écroule, sa santé, ses enfants meurent, tout lui arrive. Et Job reste un moment sidéré, il souffre pendant 8 jours, il ne dit pas un mot, il est sidéré par ce qui lui arrive. Et là, 3 amis viennent de 3 régions lointaines pour l'accompagner. C'est de l'accompagnement spirituel. Et qu'est-ce qu'il commence par faire ? Il commence par attendre à côté de lui sans rien dire, juste pour être avec lui tant qu'il n'est pas en état de parler. Ça, c'est le bon accompagnant. Et à partir du moment où il s'ouvre la bouche, ses amis, ils deviennent, je crois, des mauvais accompagnants parce que au lieu d'entendre vraiment ce que Job a à dire sur ce qu'il vit, ils projettent leurs propres angoisses, leurs propres inquiétudes sur Dieu. Est-ce que Dieu est juste ? Si Dieu est juste, c'est que Job doit être mauvais, c'est que Job doit avoir commis des fautes. Et donc, sous prétexte de lui montrer une issue, une voie de sortie, ils vont le convaincre qu'il a essayé de le convaincre qu'il a mal agi, qu'il a commis des fautes et qu'il doit demander pardon. Et Job n'accepte pas. Pourquoi j'ai fait cette longue digression ? Parce qu'il me semble que la difficulté dans l'accompagnement spirituel, c'est aussi d'être en état de soulager le besoin de donner du sens du patient qu'on a en face, sans projeter soi-même ses propres angoisses, ses propres inquiétudes. Est-ce qu'il y a des formes d'accompagnement spirituel qui peuvent être toxiques, des mauvaises présences, en particulier sur le plan moral et spirituel ? Michel, Lévy-Soussan.
D'abord, merci beaucoup Frédéric pour avoir apporté ce texte de Job autour de cette table, parce que je suis souvent frappée de voir la coïncidence entre le travail que nous faisons avec les psys au quotidien en clinique et puis les sources de la tradition juive, notamment dans les temps de deuil. Là, tu parlais de ce temps de sidération aussi, c'est-à-dire ces étapes psychiques par lesquelles on passe et qu'on retrouve dans ces récits, et notamment là dans le livre de Job. Donc ça me paraît là aussi être une richesse, et peut-être dans l'accompagnement spirituel, il y a aussi ce travail de bibliothérapie, c'est-à-dire comment aussi certains textes, et Marc connaît ça très bien, notamment aussi porté par le rite, tu en diras sûrement quelque chose par la suite, mais certains textes, à certains moments, dans une relation, peuvent être adressés comme une forme de soin. Donc, ce que tu dis, entre ce que vous dites entre le bon et le mauvais accompagnement me paraît tout à fait important, parce que oui, je pense que l'accompagnement, c'est être à côté, c'est être à une certaine place possible. Ça n'a rien d'évident, il n'y a pas de règle non plus qui permet de définir la bonne distance. Et pour autant, je pense qu'on peut donner des repères aussi sur ce qui peut être toxique. Et ce que vous mentionnez, c'est-à-dire un discours très projectif où on serait envahi par ses propres représentations qu'on viendrait projeter sur la personne malade, pourrait le charger au lieu de le soulager. Et donc là-dessus, je pense qu'on peut mettre en garde et pour éviter qu'il y ait des moments d'accompagnement qui chargent la personne de mots qui lui sont étrangers. J'ai souvent cette image qu'on a, sans être même confronté à la maladie, on a tous en nous un malade, une façon d'être malade, qui se révèle dans l'épreuve de la maladie et dans d'autres épreuves de la vie. Et finalement, l'accompagnement, c'est pouvoir être à l'écoute du malade en chacun de nous et qui est propre à soi-même, qui a aussi sa propre histoire parce que ça s'est constitué. Voilà, moi, je travaille aussi dans le champ de la douleur. De la douleur, eh bien, le rapport qu'on a à notre corps souffrant, il s'est souvent constitué très tôt, parfois dans l'enfance, parfois à l'occasion de toutes petites blessures et de la façon dont la mère a pu réagir à ses premiers coups. Et tout ceci a pu fonder un rapport à notre corps sensible, à la douleur, à la façon dont il est mis à l'épreuve. Et l'accompagnant, il va être finalement dans cette place qui va permettre à l'autre de se révéler dans ses lieux de fragilité, mais aussi dans ses ressources propres, et arriver à solliciter, on va pouvoir, en le connaissant mieux, en étant à cette place d'accompagnant, voir qu'est-ce qui va pouvoir le ressourcer.
Et y compris, du coup, Marc Cohen, vous avez travaillé longtemps, vous travaillez encore avec des survivants de la Shoah, les questions de foi, de doute reviennent au moment crucial.
En tout cas, ce désir de... Ça fait une vingtaine d'années que je rêvais de faire ce programme que nous sommes en train de réaliser, enfin d'essayer de réaliser aujourd'hui. Il est né avec la création de l'accueil de jour Edith Kremsdorf, qui a été un accueil de jour qui recevait des survivants de la Shoah atteints de maladies neurodégénératives. Et la plupart des personnes que nous recevions étaient des personnes juives, je dirais, en colère contre le judaïsme, en colère contre Dieu, enfin... cette colère de Job dont vous avez si bien parlé. Et c'est vrai que je voulais apporter j'ai eu la chance de recevoir avec un judaïsme d'Afrique du Nord voilà, très riche en tradition et aussi en connaissance sur les origines de ces traditions et sur leur sens. Et ça s'est très bien passé, c'est-à-dire que ça n'a pas, au contraire, l'outil de la tradition dans la prise en charge des troubles de la mémoire de ces personnes a été extrêmement positif. Et du coup, je me suis mis à réfléchir sur sortir un peu de ce contexte des survivants de la Shoah pour l'ensemble des personnes que nous recevons de toutes les origines, puisque nous recevons des personnes de toute religion et sans religion. Et par contre, c'est un sujet tabou dans un pays laïque. C'est très tabou de faire partie de cela. Mais j'avais une femme de 95 ans qui allait à l'église quand elle était toute jeune, qui n'y a plus été pendant 50 ans, je trouvais dommage qu'on n'ait même pas le droit d'en parler, qu'on puisse pas parler. Alors heureusement que nos fêtes quand même judéo-chrétiennes ont les mêmes noms. Et je peux vous dire que quand c'était Shavuot, quand c'était Pentecôte, il n'était pas question pour moi de ne pas parler de ce que c'était devenu dans le christianisme, dans les différents christianismes, et de les voir exister, réagir, dans un sens ou dans un autre. Mais c'est ça le sujet tabou, paradoxalement. Hein. Et moi, tout ce que j'espère, c'est simplement que cette question, elle soit moins taboue pour nous, comme pour les personnes que nous rencontrons, et de profiter de l'énergie qu'il y a derrière.
Et ça suppose du coup un travail effectivement de formation des professionnels de l'accompagnement et de la médecine, des formations des bénévoles aussi, et c'est le projet donc, que vous dirigez tous les deux. Juste un contact peut-être pour les personnes intéressées par ce projet donc, qui aura lieu au mois de juin à l'Institut Rachid de Troyes.
Donc il suffit simplement d'aller sur le site Adat Shalom, A-D-A-T-H-S-H-A-L-O-M, .org. Et là, on voit tout de suite, il y a le programme, il y a tout ce qui est fait, toutes les conditions, où ça se passe, etc. Alors, il y a c'est un petit groupe, c'est le premier groupe, donc c'est 20 personnes. Il y a une demande de participation, et puis on choisira les personnes que nous pourrons prendre.
Un mot pour dire que nous le portons à Troyes, avec le rabbin Valéry Stessin de Jérusalem, et dans la ville de Troyes.
Parfait. Merci beaucoup à tous les deux, Marc Cohen, Michel Lévy-Soussan.
Merci beaucoup, Frédéric.
Bonne semaine à tous.
C'était le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance israélite universelle.